L'autre, les autres, comment savoir, comprendre, percer l'imaginaire de celui, celle qui est en face de moi? Penser l'autre, c'est quoi? C'est penser à la place de, pour l'autre, additionner les différences et les similitudes, c'est annuler la distance ou rendre l'autre à jamais lointain, étranger, autre.
De vive voix.
Pascal Paradou.
Dans la langue française, l'autre est un pronom, incontestablement, mais dites altérité et vous voilà de plein pied dans la philosophie, l'anthropologie ou la sociologie. Vous voilà aussi au cœur du nouveau roman de Sami Tchak qui, dans Le continent du tout et du presque rien, raconte la vie d'un ethnologue français parti au Togo pour étudier un petit village Thème. Bonjour Sami Tchak.
Bonjour.
La question dans ce roman est donc bien celle de l'autre.
Oui, celle de l'autre, l'autre qui a été, on va dire, le sujet principal des ethnologues. L'autre, l'altérité, l'autre, mais aussi aller trouver dans la différence ce qui le rapproche de nous. Ça a été le travail des Balandiers.
Ce mot existe dans les langues du Togo? Je ne sais pas lesquelles ou laquelle vous parlez.
Dans ma langue, Thème. Ce mot existe, mais il n'existe pas dans ce sens de l'altérité. L'autre, ça peut être celui qui est proche, tout près de moi. Il est l'autre au moment où je parle de lui. Dans le sens d'une altérité, l'autre comme le lointain, quel que soit ce qui le rapproche de nous, ça n'existe pas dans ma langue.
Dans votre roman, vous mettez par un retournement romanesque à la place de l'autre, vous, l'écrivain togolais, dans la peau de l'ethnologue français. Il y a un petit côté pirouette et pied de nez.
C'est vrai. C'est un exercice que j'ai trouvé, disons, très excitant intellectuellement dans la mesure où, à un moment, je me suis posé la question moi-même de ma place en tant que l'autre dans la mesure où mon propre parcours la sociologie et les activités que j'ai eu à faire dans ce cadre-là, à aller faire des recherches dans d'autres pays comme le Burkina Faso ou à Cuba, ça m'a quand même à un moment amené à me poser la question, est-ce que l'autre se réduirait à une présence géographique, à une couleur de peau ou peut-être à une adhésion à une démarche. Je me suis rendu compte que j'ai adhéré quand même à une démarche qui n'est pas de ma propre société, même aux yeux de ma société, de mon village. Je suis moi l'autre et les gens de mon village sont quand même l'autre finalement, même s'ils sont très très proches de moi.
Le village, votre village, c'est celui du roman.
C'est celui du roman.
Donc vous trichez un peu.
Oui, je triche un peu parce que...
parce que vous êtes l'ethnologue dans votre propre village.
Oui, c'est vrai que je triche un peu en me mettant dans la peau de Maurice Boyer, tout en étant quelque part Maurice Boyer et en me situant sur des territoires que je connais très bien.
Être romancier, Sami Tchak, c'est être ethnologue un peu?
Je pense que...
Beaucoup, hein.
Je pense franchement que, ça dépend peut-être des sujets qu'on aborde, mais il me semble que le romancier a besoin quand même d'une base ethnologique ou sociologique pour peut-être donner ce que moi j'appelle les théâtralités. Au cœur des sujets qui sont littéraires, les tourments de l'âme, la condition humaine, il y a quand même un espace et cet espace-là exige qu'on le connaisse un tout petit peu. Et là, l'ethnologue intervient quand même.
Alors Maurice Boyer est le personnage de votre roman, l'ethnologue français qui vient dans votre propre village. Oui. Et ce sera pour lui une immersion qui durera à peu près 2 ans et un choc. Pourquoi il a un choc à ce point-là? Pourquoi ça va changer sa vie? Il le dit.
Oui, le choc qu'il va d'abord, recevoir vient d'un personnage auquel il n'avait pas pensé. Le personnage de l'imam, ça aurait été assez simple. Il sait que le village est musulman. En se rendant dans ce village, il sait que c'est un village musulman. Mais l'imam introduit une rupture dans sa vision des choses. Il arrive là, il se rend compte que ce village qui est projeté comme un objet ethnologique, c'est-à-dire tellement éloigné, différent de sa vision du monde, de la conception française ou occidentale des choses, ce village a pour imam quelqu'un qui a fait des études à la Sorbonne, des études de sociologie, quelqu'un qui est donc en mesure d'adopter la même démarche intellectuelle que lui, tout en ayant autre chose que lui ne comprendrait pas aussi aisément, c'est-à-dire la spiritualité sur laquelle il a assis son autre savoir au cœur de la civilisation musulmane.
Donc c'est un autre qui joue le rôle de miroir et de miroir un peu déformant.
C'est un autre qui lui renvoie déjà sa propre image, parce qu'il est le produit de la Sorbonne, mais l'autre aussi qui lui permet tout de suite de réviser sa position de celui qui vient juste regarder. Parce que l'ethnologue se situe quand même dans une certaine verticalité. Venir regarder des êtres humains comme des sujets ou des objets d'étude, c'est se placer quelque part un peu en surplomb. Il y a une sorte de hiérarchisation quand même dans la façon dont cette science a structuré les sociétés. Lui, il se rend compte qu'il ne serait plus totalement celui qui se place en haut. Il y a quelqu'un qui lui contesterait au moins cette position-là, quelqu'un qui le ramènerait à une relative horizontalité.
Maurice Boyer, votre personnage, Sami Tchak, termine sa vie sur un constat, et c'est le début du livre, hein, parce que c'est un flashback, mais il termine sa vie sur un constat, l'ethnologie est fille de la colonisation. C'est un constat assez cruel, parce qu'en fait, cet homme est parti avec des a priori très humanistes.
Oui, disons qu'à un moment, il découvre la réalité de la science qui l'a fasciné à travers Balandier. Il découvre quand même que les ethnologues n'auraient pas existé sous cette forme-là s'ils n'avaient été eux de la société qui dominait. D'ailleurs, il découvre que leurs ressources venaient même des colonies. Et ils allaient en mission dans ces pays-là. À partir des ressources venues de ces pays-là, il se rend compte qu'il s'agit en fait d'une science qui, bien qu'humaniste pour certains, demeure dans la logique quand même d'une vision hiérarchisée ou d'un positivisme du monde.
Alors à travers ce personnage et toutes ces rencontres, dont celle de l'imam, vous mettez en roman, Sami Tchak, les grandes questions qui animent actuellement le débat intellectuel et politique sur la décolonisation, la post-colonisation ou l'appropriation culturelle. Lecture passionnante donc, que nous allons poursuivre après avoir écouté Bernard Lavillier, Le cœur du monde.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, allant viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour enchaîner, enchaîner. Enchaîner, enchaîner.
Cœur du monde, Bernard Lavillier sur RFI, extrait de son nouvel album Sous un soleil énorme et toujours cette voix si chaude. Samy Tchak est aujourd'hui notre invité avec son nouveau roman Le continent du tout et du presque rien. Et il y a des majuscules à tout et à rien. Ce n'est pas anodin.
Non, ce n'est pas anodin parce que ce sont les deux mots qui, à mon avis, disent tout. Hein. On sait, on comprend tout de suite que le continent dont il s'agit, c'est l'Afrique. Hein. Donc, elle est cette Afrique à la fois tout et presque rien. Tout parce que bon, ben, il y a tout, presque rien parce que dans la vision quand même qu'elle a suscitée, c'est comme si c'était bon, justement la terre première. Mais en même temps, dans la hiérarchisation, le dernier dans l'évolution, c'est peut-être, même si, c'est vrai, le clin d'œil à Jankélévitch est clair, hein, le je ne sais quoi et le presque rien, bien évidemment.
C'est en tout cas l'expérience que va faire Maurice Boyer, votre personnage, en partant en 1970 pour le Togo, pour un petit village donc, du centre du pays, qui est aussi le vôtre, Samy Tchak, puisque vous nous l'avez raconté. Et il va plutôt faire l'expérience du tout, parce que même s'il s'ennuie, il va se prendre de passion, dans tous les sens du terme d'ailleurs, pour ce qu'il voit et ce qu'il vit.
Oui, oui, disons, il a eu peut-être... dans un petit coin, c'est un petit coin, l'expérience humaine totale. Elle est totale sur tous les plans, grâce d'abord au chef du village, Ourotou, qui va en faire comme un fils adoptif dans un premier temps, qui va lui rendre la vie plutôt agréable avec celle qui est sa favorite. Expérience totale dans tout ce qu'il va découvrir petit à petit des personnages du village. Expérience totale avec l'imam qui, d'abord distant, va finir par lui révéler qui il est, qu'est-ce qu'il porte comme histoire, quelles sont les douleurs, les fêlures qui l'ont conduit dans ce village. Expérience totale quand l'imam a fini par lui révéler ce qu'il dit être sa vie. Quand il découvrira, grâce à l'épouse de l'imam, qu'en fait, il y avait un secret encore plus lourd que l'imam cachait. Expérience totale, peut-être parce que, aussi, dans ce village, il est devenu un étranger immergé, un étranger aimé, un étranger humilié, enfin, un étranger qui découvre qu'il demeure un étranger.
Oui, c'est toute la première partie du livre, quand il est au village, avec ses deux personnages clés qui sont le chef et l'imam, chacun ayant une femme, ce qui va compliquer un peu les relations, mais il va vivre une sorte d'initiation et de mise à l'épreuve aussi. Il va changer de nom, s'appeler Morou, mais réaliser en fait qu'il est blanc, qu'il a, j'aime beaucoup ces termes-là, une peau orpheline et des mains molles.
Oui, c'est cette question-là. C'est vrai qu'à un moment, il y a une chose qui l'habitait dans sa conscience, c'est qu'étant blanc, ou qu'il arrive dans ces contrées-là africaines, il constituerait une majorité. Ah, il est blanc. Mais il arrive là, il se rend compte que le regard qu'on pose sur lui n'est plus celui qui le mettrait à la place qu'il croyait avoir. Il est seul, vraiment au sens propre du terme, il est seul. Et les mains qu'il va présenter aux gens de TED, ce sont des mains de quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui ne travaille pas.
Et qui n'a jamais égorgé un poulet.
À ce moment-là, une vision du monde vient, disons, redéfinir la sienne. C'est un ethnologue. Ben, il est en train de travailler puisqu'il quitte son confort pour ce village-là, mais il ne travaille pas. On est dans une confrontation de vision du monde qui le perturbe et finalement devienne enrichissante De toutes les façons, c'est ce que l'ethnologue recherche en vérité. C'est quand même cette différence-là qui va le ramener à lui.
Et ce personnage va découvrir un autre système de valeurs qui le déstabilise beaucoup. Là encore, le roman foisonne d'anecdotes, de récits, de contes, de mises à l'épreuve, de petites ou grandes cérémonies. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup plu quand un des personnages lui demande, par exemple, combien il a de mères.
Combien il a de mères, cette question-là qui se pose à lui et qui semble plutôt un peu incongrue, comme on a une mère, mais il est dans un système où les mères, c'est aussi dans la classification clanique, toutes les femmes du clan de la mère sont nos mères. Ça aussi, j'ai fait c'est un petit clin d'œil littéraire à Céline dans Le Voyage au bout de la nuit aussi, un paysan qui arrive en retard, plusieurs fois il disait qu'il a enterré sa mère. Le commandant lui demande, mais combien de mères vous... Parce que c'était le même argument que vous aviez donné la dernière fois, vous avez enterré. Il dit, j'en ai plusieurs. Et dans ma société, oui, chacun a plusieurs mères.
Et puis, ce personnage va se laisser duper parfois, notamment quand le chef organise une cérémonie où un bouc sera torturé sur la place du village et il va s'apercevoir a posteriori que tout ça était une vaste mascarade, que c'était pour l'occuper, pour le sortir de l'ennui. Cela veut dire que l'ethnologue peut aussi être dupé, tout en étant un homme de science,
oui,
a priori.
L'ethnologue peut être dupé et il a souvent été. Parce qu'à un moment, les populations qu'il étudie comprennent ce qu'il recherche. Comme les choses ont souvent évolué beaucoup plus vite qu'il ne le croit, on essaie de lui restituer un passé qui n'existe pas. C'est d'ailleurs de cette manière que Maurice va être humilié avec cette histoire de serpent sacré, avec l'histoire du crapaud, même si le chef finira par lui révéler qu'il n'y avait derrière tout ça aucune histoire de serpent sacré, puisqu'ils sont devenus musulmans, qu'ils n'ont plus cette histoire de serpent sacré, ils savent que l'ethnologue est venu là avec sa conviction que tout est sacré chez les autres. On lui joue la comédie du sacré, parfois à ses dépens.
Quelle est la part de la fiction ou de l'ethnographie? Maurice Boyer, en tout cas, se place sous la protection d'un maître qui est Georges Balandier, à qui il écrit des lettres, qui lui répond. Et bien sûr, Balandier a existé. Il a été considéré comme l'un des plus grands africanistes du XXe siècle et auteur de « Afrique ambiguë ».
Ce que m'a apporté l'Afrique, c'est tout d'abord la connaissance directe, immédiate, de formes de civilisation différentes de celles que le lieu de ma naissance m'avait appelé à fréquenter. Donc c'est déjà un apprentissage qui me semble important, l'apprentissage de la différence. Ce que l'Afrique m'a apporté, c'est la démonstration de sociétés où l'on n'est pas entièrement obnubilé par les tâches de la production, de la répartition, du savoir hautement rationalisé, la connaissance de sociétés de civilisation où une place est faite à la gratuité, où une place est faite à la reconnaissance et à la connaissance du corps, où une place est faite au déploiement des signes, des symboles qui font que la société n'est pas simplement une collection d'outils, de machines et de petits robots employés à manœuvrer les outils et les machines, mais aussi un lieu où des hommes produisent des significations. Alors, en ce sens, je peux dire que les peuples africains ont été mes véritables éducateurs. Alors, le serait-il encore aujourd'hui ? Je le crois, pour une part, mais je ne serais plus tout à fait aussi persuadé que ça n'a été le cas lorsque j'ai rencontré l'Afrique en 1946-1947.
Sami Tchak, sans créer de dialogue posthume, que diriez-vous à Georges Balandier, que vous avez connu, dont vous avez été l'élève? Est-ce que cette Afrique des années 50 existe encore ou elle était déjà une construction pour ethnologue, c'est-à-dire un discours?
Et je me souviens, dans l'Afrique ambiguë, Georges Balandier a eu une déception en 1946 quand il arrive à Dakar. L'Afrique à laquelle il rêvait ou qu'il avait en tête, Dakar, la percute de façon brutale puisqu'il arrive dans une ville qui lui rappelle plutôt une partie de la France. Elle est en partie construite d'ailleurs par les colonisateurs. Donc, je crois que je lui rappellerai que non seulement il a été déjà dans l'idée que cette Afrique-là n'existait plus entièrement, mais qu'il a contribué au façonnement de l'autre Afrique, puisque il a été avec d'autres à l'origine de la création de la revue Présence africaine avec Alioune Diop, lutter pour une forme d'émancipation de l'élite africaine qu'il rencontrait ici, tout en étant conscient que cette élite-là allait façonner un continent selon l'image quand même occidentale. Donc cette Afrique avait cessé d'exister avant qu'il ne la découvre.
Mais il y a toujours une ambiguïté finalement fondamentale de l'ethnologie. C'est à la fois se fondre et être extérieur. On ne peut jamais avoir la bonne image.
Non, l'ethnologue n'aura plus jamais la bonne image dans la mesure où, même au moment où il avait le privilège, d'étudier des peuples qui n'utilisaient pas les mêmes signes que lui, il était déjà un peu contesté. Aujourd'hui, il a la concurrence des ethnologues africains qui, tout en utilisant peut-être l'héritage ethnologique français, essaient de le déconstruire. Donc, l'ethnologue ne sera jamais l'autre. Il sera peut-être le frère de l'autre jusqu'à une certaine limite, parce qu'à un moment ou à un autre, on peut projeter sur lui tout ce qu'on a comme image du dominant. C'est peut-être là sa limite aussi.
Alors vous dites, ou du moins Maurice Boyer dit dans ce roman « L'ethnologie est la fille de la colonisation », mais ça ne veut pas dire que les ethnologues en tant que personnes étaient forcément des colonisateurs. Balandi a dénoncé la colonisation, mais si on remonte dans le temps, Michel Léris aussi, Léris que vous citez, oui. Et c'est celui qui raconte dans l'Afrique fantôme la mission Dakar-Djibouti au début des années 30, dont les 3000 objets ont été exposés et ont constitué le fonds du Musée de l'Homme à Paris.
Parmi les injustices sociales, enfin qui sont très nombreuses et très fortes, et qui peuvent révolter, ben celle qui m'a toujours le plus révolté, c'est l'injustice coloniale. Le mépris qu'on des gens qui se trouvent tenir le haut du pavé parce qu'ils sont peut-être de meilleurs industriels que d'autres, c'est tout, de meilleurs mécanos, enfin, je dirais presque, ce mépris, enfin, dont ils écrasent des gens au moins aussi civilisés qu'eux, enfin, d'une façon différente, et qui, à beaucoup d'égards, même pourraient leur donner des leçons.
Pour vous, au fond, l'ethnologie doit être engagée. Elle l'est de fait.
Il me paraît très difficile qu'il en soit autrement.
Michel Léris, en 1968. Alors, de cette dénonciation du colonialisme, on est passé aujourd'hui, Samit Chak, aux études postcoloniales, et c'est toute la seconde partie de votre roman, puisque Maurice Boyer revient en France, et puis il va soutenir sa thèse, avoir des élèves, des maîtresses, qui sont parfois ses élèves, et donc continuer à s'interroger sur sa pratique, sur l'ethnologie et sur l'image qu'il a construite de l'Afrique. Est-ce que vous diriez que les chercheurs qui prennent sa succession sont plus radicaux que lui ?
La grande différence entre l'époque où les Michel Léris, les Balandier avaient une sorte de fraternité intellectuelle avec les Senghor, Césaire et des écrivains noirs états-uniens, la grande différence est que aujourd'hui il y a une distance vraiment qui s'est créée peut-être au sein de cette discipline-là. Un, il n'y a peut-être plus de grands noms marquants, ni du côté français, ni du côté africain. On est sorti peut-être des grands mouvements, on n'est pas dans la libération, mais on est arrivé à une époque où, tout en étant des héritiers, des ethnologues africains entrent dans la phase de déconstruction du discours ethnologique, tout en étant dans la continuité. À partir de ce moment-là, on arrive plutôt à une forme de confrontation. Elle est un peu brutale. C'est plus une confrontation qu'une communauté d'esprit. Et cette confrontation-là, elle a ses prolongements dans des mouvements de revendication qui n'ont plus rien à voir avec la science. Les ethnologues n'y contribuent pas, mais leurs écrits sont aussi utilisés par des mouvements de revendication qui, eux, ben, tout en ayant un grand héritage occidental, ont plutôt une tendance à la culture du particularisme, se défendre de l'Occident en revendiquant des identités particularisantes.
Donc ce n'est plus de la science, mais c'est de l'idéologie.
On est dans l'idéologie. C'est-à-dire, bon, ben, ce ne sont pas les ethnologues eux-mêmes qui la font, mais ils sont utilisés pour de l'idéologie.
Une question d'actualité, Samy Tchak. On vient d'assister à la restitution au Bénin, donc c'est le pays voisin du Togo, aux 26 objets des trésors royaux. Est-ce que pour vous c'est une étape ou c'est une nouvelle période qui s'ouvre ?
C'est une étape avec tout le questionnement que ça suscite chez moi, parce que ces objets ont voyagé, c'est sûr. Ils repartent, c'est sûr. La question qui se pose, c'est que sont-ils devenus ? On les restitue, c'est sûr, mais le Bénin les reçoit comme des objets cultuels ou comme des œuvres d'art. Parce qu'il est question quand même ici de restituer des œuvres d'art. Ce n'était pas nécessairement des œuvres d'art, mais des objets qui avaient une fonction culturelle dans des sociétés, beaucoup d'entre eux du moins. Mais ils repartent quand même comme des objets dévitalisés pour moi. Ils sont maintenant des œuvres d'art. D'une manière ou d'une autre, ils repartent au Bénin en ayant quand même subi leur métamorphose occidentale.
Alors comment peut-on, alors je ne vais pas utiliser le mot de réparer ou même se venger, parce que certains personnages dans le livre veulent se venger, de l'Occident, mais comment peut-on envisager l'avenir ? Et est-ce que l'avenir ne doit pas, je fais deux questions en une, mais parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, est-ce que l'avenir ne doit pas être, et je crois que c'est un mot qui vous plaît bien, une hybridation ?
Oui, je pense quand même que l'avenir, même le présent, il est déjà dans cette hybridation, dans la mesure où ceux qui vont parler de vengeance, de séparation, de tout ce qu'on veut, ont au moins conscience qu'ils produisent un discours au cœur d'une civilisation qui a déjà dépassé les frontières territoriales d'où elle était partie. Parce qu'aujourd'hui, la civilisation occidentale, puisque c'est quand même de celle-là qu'il s'agit, elle a réussi à se répandre partout, au point que, pour la contester, on est toujours à l'intérieur de ses logiques. On la conteste avec ses propres logiques. Dans ce cas-là, je crois franchement que cette hybridation doit aller vers une forme d'apaisement. Il n'est plus question de dire nous sommes nous, c'est-à-dire nous avec notre part très profonde d'occidentalisation. Nous sommes nous avec notre part d'occidentalisation, d'une manière ou d'une autre, peut-être qu'une fraternité, un humanisme nouveau naîtrait de cet apaisement de l'hybridation. La seule chose qui peut-être pourrait poser problème, c'est si l'hybridation, ceux qui en ont conscience, éloigne de ceux qui pensent qu'ils sont la racine principale, ce qui nous ramène au rhizome de Glissant, la contestation de la racine principale.
Et ce qui nous ramène à votre roman, puisqu'il est question de tout cela dans Le continent du tout et du presque rien. Merci beaucoup, Samy Tchak. Roman qui est votre 8e livre, édité chez Jean-Claude Lattès. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Jérémy Bessé à la réalisation. Et on se retrouve, bien sûr, demain.